grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, une émission consacrée à toutes vos questions gynécologiques avec la complicité du mensuel Santé Magazine. Nous allons essayer de démêler le vrai du faux autour de certains sujets, qu'il s'agisse de certaines méthodes contraceptives, de protection intime, du microbiote vaginal, de la ménopause ou de la préménopause. Nous attendons également toutes vos questions sur la sexualité féminine. Nos expertes vous conseilleront le plus précisément possible. Avec nous, les gynécologues Marie Veluy et Daniel Assoun, et notre camarade Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Nous attendons vos questions et témoignages. Avez-vous par exemple abandonné la pilule pour d'autres méthodes? Comment abordez-vous la préménopause? Craignez-vous de porter des protections intimes bourrées de perturbateurs endocriniens? 01 45 24 7000. Sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, le site et l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
En duplex des studios de France Bleu à Toulouse, vous êtes le médecin de Grand Bien Vous Fasse. Votre chronique, c'est vers 10h35, chaque semaine, des histoires de patients et de soignants.
Oui, aujourd'hui on va parler informatique et utérus.
À tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébé.
Allez, pour répondre à toutes vos questions ce matin, docteur Marie Veluire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, obstétricienne et sexologue. Dernier ouvrage paru, « Je tue-nous, le couple, le sexe et l'amour » aux éditions InPress. Bonjour, docteur Daniel Assoun. Vous êtes gynécologue, vous avez été responsable d'un centre IVG. Vous collaborez à des recherches menées par l'INSERM sur les échecs de la contraception et les représentations de la ménopause. Dernier ouvrage paru aux éditions Vuibert, le guide de la contraception, conseiller, prescrire, surveiller, avec les co-auteurs
Philippe Fauchet, Teddy Linné.
Vous y teniez. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Vous proposez un dossier spécial gynécologie dans le nouveau numéro de Santé Magazine qui vient de paraître. Expliquez-nous tout de même la différence entre la gynécologie obstétrique et la gynécologie médicale, Daniel Assoun.
Alors effectivement, c'est maintenant deux professions. Enfin, ça a toujours été deux professions différentes. L'une s'occupant de la santé des femmes, mais sans l'obstétrique, c'est-à-dire sans l'accouchement et sans la chirurgie. L'autre, les gynécologues obstétriciens, ayant pour fonction, effectivement, d'accoucher et de faire de la chirurgie gynécologique.
Alors, comment se porte la gynécologie médicale française? On assiste à une baisse sensible des gynécologues médicaux. La filière, il faut le rappeler, la filière gynécologie médicale a été créée dans les années 60. Elle a été supprimée en 1987 par la ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac. Une filière rétablie en 2003. Et donc quoi? On assiste à une pénurie entre les départs à la retraite et la diminution des médecins formés?
C'est-à-dire, dans les années 80, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une harmonisation par rapport à l'Europe, puisque la gynécologie médicale n'existait pas dans d'autres pays d'Europe. Donc, de fait, c'est vrai qu'elle a été supprimée, et puis remise, effectivement, un peu plus tard. Alors, évidemment, tous ceux qui avaient été formés avant ces années-là sont maintenant à la retraite, d'ailleurs, quasiment, effectivement, ou quasiment à la retraite. Et les plus jeunes sont peu nombreuses sur le terrain, c'est vrai, d'où une pénurie de gynécologues. Mais en même temps, il faut bien dire qu'au cours des dernières années, il y a eu aussi la formation des sages-femmes et des médecins généralistes qui sont supposés prendre le relais de cette santé des femmes, sans la chirurgie, sans l'accouchement, bien évidemment.
Aline Perraudin.
Ça suit aussi la pénurie de l'offre des médecins, parce qu'il y a aussi
Absolument.
Moins de médecins généralistes.
Oui, il y a moins de médecins en général, il y a moins de médecins spécialistes en général. Donc effectivement, on est dans ces, et on se retrouve en particulier, je pense, en province, dans des véritables déserts médicaux à tous les niveaux et dans toutes les spécialités. Hein.
Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, on assiste donc à une chute de près de 42% des gynécologues médicaux entre 2007 et 2017. Et dans certains départements français, il n'y a plus du tout de gynécologues. Quelles sont les conséquences concrètes de cette pénurie de gynécologues médicaux sur la santé des femmes, Marie Veluire?
Je ne sais pas si on peut parler de conséquences sur la santé des femmes, parce que quand même, il y a d'autres médecins, il y a beaucoup de généralistes et des femmes, entre autres, qui sont formées en faisant un DU de gynécologue, enfin de gynécologie, et qui suivent. Et puis, les autorités de tutelle poussent au fait que, enfin, ont augmenté les capacités de prescription et de suivi des sages-femmes, qui, petit à petit, prennent le pas, en tout cas, sur tout le suivi standardisé.
Daniel Assoum.
Il faut bien voir ça. La gynécologie médicale, c'est une médecine beaucoup de prévention. Donc, on peut penser aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être déléguées. Hein, il y a une délégation de tâches maintenant dans un certain nombre de cas en médecine. Et ça peut très bien être fait même par des infirmières. On peut penser que les frottis, par exemple, peuvent être faits par des infirmières. Donc, il y a ce problème de la délégation des tâches. Il y a ce problème de la prévention qui peut être pris en charge de façon plus large par d'autres professionnels. Et puis, il y a le problème de l'écoute. Et ça, l'écoute, c'est pas spécifique de la gynécologie médicale, c'est spécifique simplement
d'un soignant,
de quelqu'un qui serait là et qui a envie d'écouter avec empathie ce que lui disent les femmes.
Est-ce que vous avez constaté un impact dans le livre comme le livre noir de la gynécologie de Mélanie Deschalottes, qui a alerté sur les maltraitances gynécologiques et obstétricales? Certaines femmes, j'en connais autour de moi, se sont détournées des médecins gynécologues au profit, par exemple, des sages-femmes, Marie Beluire. Plus à l'écoute peut-être, qui prennent plus le temps, plus empathiques.
Ouais, enfin.
Sans tomber dans la caricature évidemment.
Voilà, il faut faire la différence entre une écoute en général et puis ce qui peut se passer dans une salle de travail où à un moment donné il y a une urgence et effectivement il y a des seniors et des obstétriciens qui n'ont peut-être pas la capacité à ce moment-là d'avoir le bon mot, d'avoir... Donc, il y a des situations qui sont pas obligatoirement simples, mais il faut quand même savoir que l'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants aillent bien et que les mamans aillent bien. Et je suis d'accord qu'il y a des dégâts collatéraux qui sont d'ordre psychique où effectivement, on n'a pas porté assez attention, où on n'a pas formé son équipe suffisamment pour que tout ça soit pris en charge.
Je voudrais vraiment insister sur la formation. Et la formation, elle se fait vraiment au niveau des jeunes médecins. Et très très tôt dans les études médicales. Et ça n'est pas fait. Parce que c'est vrai que quand on commence médecine, on ne nous dit pas à quel point les mots ont une importance. Quand on est en face de soi, soit des gens malades, soit des gens qui ne sont pas malades, comme en obstétrique, ou les femmes enceintes, elles sont pas malades. Et on ne se rend pas compte du tout, et je suis sûre d'avoir dit des choses absolument inentendables. Mais c'est pas possible, parce que justement, on ne s'entend pas, et on ne nous apprend pas à nous écouter nous-mêmes sur ce qu'on raconte aux gens, comment on leur explique les choses, comment on les informe, comment on leur fait des annonces, parfois, de maladies graves. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné. Et c'est absolument indépendant du fait d'être sage-femme, médecin généraliste, gynéco. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus doués que d'autres, mais c'est pas une question de qualification, je dirais.
Donc ces signaux d'alerte, tant mieux. Tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que ça nous a aussi fait nous remettre en cause, et ce, à tous les niveaux de la chaîne des soignants, parce que c'est tous les soignants en général, prendre un peu plus conscience que les mots ont de la valeur et qu'il faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, je redis, c'est pas toujours simple, suivant la situation dans laquelle on se trouve.
Allez, une première question de Véronique, qui nous demande si sa fille de 14 ans peut consulter la même gynécologue qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Daniel Assoum? Est-ce qu'une mère et une fille peuvent consulter le même praticien?
Ben, je dirais, dans ma pratique, j'ai tout eu. C'est-à-dire les jeunes filles qui venaient consulter avec leur mère, les jeunes filles qui ne voulaient pas. Donc la question à poser à cette jeune fille, c'est: est-ce que tu veux venir chez la même gynéco? La deuxième chose, c'est: je ne suis pas sûre qu'une jeune fille de 14 ans ait besoin d'une consultation gynéco. Si elle va bien, si elle n'a pas de soucis, si elle n'a pas besoin de contraception, a priori, elle n'a pas besoin de gynéco. Non, c'est pas une consultation obligatoire.
Mais elle peut avoir à poser des questions.
Voilà.
Et si, et c'est là encore, en matière de gynécologie et de prévention, on doit pas, les mères ne doivent pas précéder leur fille, elles doivent l'accompagner. Donc il y a une demande, on accompagne, on peut proposer son gynécologue ou pas. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps précis
unique, duel entre la gynécologue et la fille, sans la maman.
Allez, nous attendons toutes vos questions en gynécologie ce matin au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marliot et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Et pour bien commencer la semaine, on écoute un titre de 1991. Cette année-là naissait le footballeur Antoine Griezmann et disparaissait le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Belle journée à l'écoute de France Inter. Lenny Kravitz.
Profitez bien de vos règles. Pour quelqu'un qui n'a pas ses règles, je te trouve quand même particulièrement émotive.
Grand bien vous fasse.
Allez, rassure-toi, tu vas encore souffrir de crampes au ventre pendant de longues années.
Sur France Inter.
10h19 et ce matin nous attendons toutes vos questions gynécologiques et sur la sexualité féminine avec la complicité de Santé Magazine 01 45 24 7000. Alors une série de questions sur la pilule. Il s'agit de la méthode contraceptive la plus utilisée dans notre pays selon Santé Publique France. Un peu plus de 36% des femmes l'utilisent. Pouvez-vous, docteur Daniel Assou, nous expliquer le mode de fonctionnement de ce contraceptif et quels sont les différents types de pilules?
Alors, les modes de fonctionnement, en fait, la pilule contraceptive œstroprogestative, celle qui est le plus couramment donnée, elle a trois verrous, donc ce qui explique son efficacité. Elle bloque l'ovulation, elle bloque au niveau de la nidation parce qu'elle ne permet pas à l'utérus d'avoir une muqueuse suffisamment épaisse pour laisser une nidation se faire. Et enfin, surtout, un élément important, elle fait que la glaire n'est plus perméable aux spermatozoïdes. Donc, trois verrous, ça veut dire une très forte efficacité à condition évidemment de la prendre régulièrement. Alors, y a-t-il plusieurs sortes de pilules? Il y a les œstroprogestatives qui contiennent donc des œstrogènes et de la progestérone, deux hormones. Et puis, il y a les progestatives purs qui ne contiennent donc qu'une seule hormone et qui n'ont pas tout à fait les mêmes indications.
Aline Perraudin de Santé Magazine, on assiste depuis quelques années à une défiance contre la pilule à la suite de scandales sanitaires autour des pilules dites de la troisième et de la quatrième génération qui ont provoqué de graves effets secondaires chez certaines patientes.
Oui, depuis, je parlerai plus de crise que de scandale avec, en 2012, avec les pilules de troisième et quatrième génération. Donc, on a parlé du risque de thrombose, mais je crois aussi qu'il y a une peur plus largement des hormones et aujourd'hui, et avec le risque notamment de cancer. Or, il faut savoir que, certes, la pilule est cancérogène, mais on n'observe pas chez les femmes qui prennent la pilule une augmentation du risque de cancer. D'abord parce que elles sont jeunes, et elles n'ont pas l'âge à avoir un cancer. Après, peut-être que vers passé 40 ans, il faut voir si c'est le meilleur moyen contraceptif.
Alors, des pilules de troisième et quatrième génération qui ont été accusées d'accroître le risque de phlébite, d'embolie pulmonaire ou d'AVC. Quels sont les risques réels d'accidents thromboemboliques, docteur Hassoun?
Alors, cette histoire de troisième... En fait, la baisse de l'utilisation de la pilule, elle date des années 2000. Elle a effectivement été un peu plus marquée à la suite de 2012, effectivement, et de cette crise. Les troisième et quatrième générations, ça fait très longtemps qu'on pense qu'elles augmentent de façon... Elles multiplient par deux, si vous voulez, le risque thromboembolique, semble-t-il. C'est pas si évident que ça. Sur le plan des études, c'est pas très évident. Mais ça veut dire quand même que si on passe de 2 pour 10 000... risque de thromboembolie, on passe à 4 pour 10 000. Donc, c'est très très faible comme chiffre, si vous voulez. Ça reste des chiffres faibles. Mais, ceci étant dit, les pilules de deuxième génération sont à donner de première intention. Il n'y a pas beaucoup de bienfaits non plus des troisième et quatrième génération. Donc, on se dit pourquoi les prescrire, c'est vrai.
Docteur Marie Veluire.
Oui, et juste pour information, oui, on passe de 2 pour 10 000 à 3 à 4 pour 10 000 avec les pilules de où les progestatifs sont de 3e et de 4e génération. Il faut savoir qu'être enceinte, c'est 7 pour 10 000 femmes. Absolument. De phlébite. Voilà, donc il faut juste pour remettre les choses dans leur contexte.
Quelles sont les principales contre-indications?
Alors, les principales contre-indications, et la contre-indication qui est absolue, c'est des femmes qui ont des antécédents cardiovasculaires et en particulier des antécédents thromboemboliques. Entre autres, évidemment, les femmes qui ont eu des cancers également, ce sont des contre-indications. Mais la grande, grande contre-indication, c'est ça. Il ne faut pas prescrire des pilules œstroprogestatives à des femmes qui ont des antécédents thromboemboliques et qui ont eu, même si ça date de 10 ans, même si c'était une phlébite sous plâtre, donc quelque chose qui est comme ça survenu, dans un contexte particulier, c'est une contre-indication formelle. L'hypertension est une contre-indication également formelle aux œstroprogestatifs. Donc voilà, il faut les respecter, il n'y en a pas beaucoup. Les femmes qui prennent la pilule sont des femmes jeunes et en bonne santé. Mais ça, la prise de pilule, la consultation de pilule, c'est avant tout un questionnement sur les antécédents personnels et familiaux.
Vous avez constaté dans vos cabinets respectifs que de plus en plus de femmes se détournaient de la pilule au profit d'autres contraceptifs, docteur Daniel Hassoun?
Oh bah clairement, oui, depuis les années 2000, on voit bien qu'elles ne le souhaitent plus la prendre. Alors, on met effectivement... Mais elles ne souhaitent plus la prendre et en même temps, il y en a quand même beaucoup, soit qu'ils l'arrêtent pendant un moment, soit qu'ils la reprennent parce qu'elles trouvent ça plus confortable, en particulier pour celles qui ont des dysménorrhées, c'est-à-dire des douleurs de règles. C'est vrai que la pilule, ça reste quand même le traitement des douleurs de règles, si les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne parviennent pas à les calmer. Donc oui, on met plus de stérilets, indéniablement, plus de dispositifs intra-utérins. Et puis certaines utilisent effectivement les méthodes naturelles, mais moi je pense qu'elles les ont toujours utilisées. C'est simplement qu'avant, elles n'osaient pas le dire, je pense. Hein. C'est surtout tout ça, mais elles ont toujours utilisé par période les méthodes naturelles, le retrait, le préservatif, ce qui est une bonne méthode de contraception également.
Alors certaines femmes abandonnent la pilule à cause de la charge mentale qu'elle représente, et puis certaines évoquent une baisse de la libido par exemple, des troubles de l'humeur. Qu'est-ce qu'on en sait, Marie Veluire, de tous ces effets secondaires supposés ou réels autour de la pilule?
Alors, vous avez parlé de troubles de libido et autres effets secondaires dont vous avez parlé, c'est quoi?
Le trouble de l'humeur, par exemple.
Ouais, non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que de prendre une contraception, entre autres les œstroprogestatifs, stabilise complètement les taux hormonaux qu'on a dans le sang. Donc, de fait, sur l'humeur, ça aurait plutôt tendance à la stabiliser. Ça, c'est la première chose. Après, sur la libido, ça a été régulièrement interrogé, revu. J'ai refait la bibliothèque il n'y a pas tellement longtemps, justement, sur cette question. Et les études sont extrêmement contradictoires. On peut considérer, c'est là que je veux quand même dire les choses, on peut considérer que entre 5 et 10% des femmes sous estro progestatif peut avoir un impact de cette contraception sur leur libido. Mais il faut quand même savoir que le désir sexuel, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et que c'est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire parce qu'on n'a plus envie de faire l'amour et de dire « ah bah c'est à cause de ma pilule », alors que la pilule, elle a peut-être, effectivement, hein, c'est pas complètement faux, mais elle a peut-être à voir dans 5 à 10% des cas.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, sur l'humeur, c'est vrai que ça a été souvent dit, notamment la prise de poids. Et quand on regarde les études, on voit qu'il n'y a pas de augmentation de la prise de poids. Pourtant, beaucoup de femmes se plaignent notamment alors de rétention d'eau ou d'un certain malaise.
Ouais, alors là encore, entre autres chez les petites jeunes, comme je leur explique bien, effectivement, là, vous prenez la pilule parce que vous avez un copain. Enfin, on prend quand même pas la pilule pour avoir des grossesses, de pas avoir de grossesses non désirées. Et au moment où elles ont un copain, comme elles changent un peu de mode de vie, du genre, elles vont plus souvent au McDo, elles passent beaucoup plus de temps dans le canapé, elles arrêtent le sport. Et donc oui, elles prennent du poids parce qu'elles ont changé de façon de vivre et non pas parce que la pilule leur a stimulé l'appétit.
La prise de poids, il faut bien voir ça, c'est un effet de l'âge. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, c'est des choses qui ont été parfaitement étudiées, on prend du poids. Alors évidemment, plus ou moins en fonction des gens, de la génétique qu'on a ou de l'hygiène qu'on a. Mais il y a toujours une prise de poids. Or, les jeunes filles, elles commencent la pilule vers 17 ans, parce qu'effectivement, comme vous disiez, elles ont un copain. Et c'est là, justement, et c'est ça que j'essaie de leur dire, mais regarde, est-ce que tes copines qui prennent pas la pilule, elles ont pas, elles aussi, modifié leur corps? Parce que ce qui se passe, c'est entre 17 et 25 ans, le corps se modifie. Il s'arrondit souvent et elles deviennent plus girondes. Alors, ça dépend, hein. Certaines non, mais certaines oui. Donc, il faut bien l'entendre comme ça. C'est un effet de l'âge. Alors après, il y a probablement certaines personnes, comme vous le disiez, qui sont plus sensibles aux hormones.
Il y a des terrains.
Mais pas une prise de poids de 10 kilos. Je crois pas vraiment, hein. C'est des petites prises de poids.
Alors nous recevons beaucoup, beaucoup de questions sur le stérilet hormonal. Comment fonctionne ce contraceptif, docteur Daniel Hassoun?
Alors, le contraceptif hormonal,
le
dispositif intra-utérin, le stérilet, comme on disait avant, hormonal, c'est un stérilet qui est un stérilet en plastique qui contient un petit peu de progestérone. Cette progestérone, elle a comme effet, ce que je disais pour les œstroprogestatifs, un effet qui est très fort sur la glaire vaginale. Si la glaire est imperméable aux spermatozoïdes, à ce moment-là, c'est vrai que le risque de grossesse est très très faible. La glaire est un élément fondamental de la fertilité. Donc ça, c'est un des éléments. Les autres éléments sont plus contestés ou contestables, hein. La présence d'un corps étranger, cependant, aussi, donc comme pour les autres stérilets, est un facteur d'infertilité.
Aline Perraudin, sur les risques supposé autour du stérilet hormonal, les questions que se posent beaucoup de femmes.
C'est vrai que, par exemple, il y a eu l'impact sur les règles, donc ben là, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que quand il est hormonal, il y a moins de... les règles sont moins abondantes.
C'est positif dès lors que la femme en a émis le désir.
Bien sûr. Et il y a le... Mais généralement, j'ai rarement vu des femmes qui voulaient plus de règles, mais peut-être. Un risque d'acné, en revanche, il est augmenté. Donc ça, tous les œstroprogestatifs augmentent le risque d'acné, donc ça peut être un élément peut-être négatif. Et c'est vrai que sur les notices, on mentionne quand même le risque d'humeur, de troubles de l'humeur, mais là encore, pas d'études ont montré que ça augmentait les risques d'anxiété ou de dépression.
Marie Veluire.
Non, il faut savoir que par rapport à ce stérilet hormonal, il faut juste que quand les femmes se font poser ce stérilet, elles sachent parfaitement à quoi elles vont s'attendre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut souvent 3 mois pour que l'utérus s'adapte et qu'il n'y ait plus de petits saignements. Que 70% des femmes à 1 an n'ont quasiment plus de règles, que c'est souvent un effet recherché, mais pas toujours. Donc, il faut absolument que les femmes soient au courant. Parce que, oui, je suis pas sûre qu'il y ait des femmes qui ont envie d'avoir plus de règles, mais il y a des femmes pour qui c'est très important de saigner tous les mois avec une sensation comme ça de mieux-être, qui est très psychique, mais voilà. Et il faut être capable de la respecter et de l'entendre.
Daniel Hassoun.
Quand une femme vient et nous demande un DIU, un dispositif intra-utérin, un stérilet, la question c'est, vous voulez des règles ou vous voulez ne pas avoir de règles? Ça c'est une première question. Ensuite, l'autre question c'est, comment sont vos règles? Si elles sont très très abondantes et qu'on met un stérilet de cuivre, c'est sûr que elles risquent d'être dans un certain inconfort parce que ça va peut-être augmenter leur leur flux de règles.
Et leur risque d'anémie.
Oui, voilà. Et donc, et si elles sont des règles très douloureuses, là aussi, le stérilet avec la progestérone est plutôt un plus. Vous voyez, ça se discute, d'une part en fonction du désir, avoir ou ne pas avoir de règles, ça c'est très clair. Il y a des femmes qui veulent avoir leurs règles, d'autres qui ne veulent pas que ça arrange. Donc c'est comme ça que ça se discute en consultation.
Oui, ça se discute, mais en fait, souvent, par exemple, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants regrettent qu'on ne leur ait pas proposé le stérilet. Mmh. Et beaucoup de médecins ne veulent toujours pas poser un stérilet à des femmes qui n'ont pas d'enfants.
Ça s'améliore un peu, mais c'est vrai que il y a, alors que depuis les années 92, il y a des études qui montrent que le stérilet n'est pas un facteur infectieux.
Ni de grossesse extra-utérine.
Éléonore nous demande, ma fille souffre de douleurs épouvantables lors de ses règles, au point de ne pas pouvoir aller au lycée. Des règles qui sont arrivées tard, à l'âge de 15 ans, et sont extrêmement irrégulières. Les douleurs sont-elles des signes avant-coureurs d'une possible endométriose? Comment dépister l'endométriose, ou est-ce trop tôt à l'âge de 15-16 ans? Marie Veluire, expliquez-nous d'abord ce qu'est l'endométriose.
Alors, l'endométriose, c'est une maladie de cellules de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, qui va aller se greffer ailleurs, qui peut aller se greffer sur les ovaires, sur les ligaments utérosacrés, dans le péritoine, ou qui peut même aussi se greffer à l'intérieur du muscle utérin. Ça, c'est l'endométriose. Cette maladie, elle est quand même pas très connue. Enfin, très connue, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur le plan scientifique. Est-ce qu'on doit la dépister à 15 ans? Probablement pas. Je crois que la première chose à faire pour cette jeune fille, c'est d'abord qu'elle soit plus confortable. Donc, c'est d'abord de trouver un traitement qui va permettre qu'elle ait pas des règles trop douloureuses, voire douloureuses, pas douloureuses du tout. Pour ça, la première chose, c'est quand même les anti-inflammatoires. Et ensuite, on peut avoir à effectivement changer son équilibre hormonal via potentiellement un contraceptif. Et puis, c'est si les choses persistent qu'effectivement, on peut chercher à avoir une imagerie pour chercher des images potentielles d'endométriose.
Toute dysménorrhée, c'est-à-dire toute femme qui a des douleurs de règles, ça ne signifie pas de façon systématique que c'est de l'endométriose. À 15 ans, l'attitude, c'est d'abord de donner effectivement, dans un premier temps, des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été prouvés scientifiquement comme étant efficaces. Dans un deuxième temps, si on ne trouve pas ça efficace, si la jeune femme, parce que c'est très important qu'elle soit confortable et qu'elle n'ait plus ses douleurs, la pilule est aussi un traitement des douleurs de règles. Comme en même temps c'est un traitement de l'endométriose, ce n'est pas la peine de se précipiter vers des bilans compliqués, surtout à 15 ans. Je pense qu'il faut attendre et faire de façon progressive, et en tout cas la mettre confortable, cette jeune fille, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle souffre.
Beaucoup de questions sur les méthodes contraceptives naturelles entre guillemets, basées sur l'observation du cycle, de la glaire et de la température. Qu'en pensez-vous, docteur Daniel Hassoun? Je présuppose votre réponse, mais allez-y.
Non, ne présupposez pas.
Parce que nous avons fait une émission ensemble sur ces questions-là la saison dernière.
Non, j'essaye de ne pas avoir d'a priori, d'autant plus que j'ai écrit là sur des recommandations avec le collège de gynécologues obstétriciens sur la contraception, en particulier sur ces méthodes-là. Donc j'ai refait un peu toute la littérature. C'est vrai qu'on a une efficacité qui est moindre. C'est vrai qu'on cède maintenant de tous les kits que l'on trouve sur Internet, qui s'avèrent d'ailleurs ne pas être un plus évident. C'est vrai que ça peut coller à certaines périodes, ça peut coller chez des femmes qui ont des cycles extrêmement réguliers, ça peut coller pour certaines femmes, et pourquoi pas, moi j'ai absolument pas d'a priori contre. Et on peut dire, alors je vais pousser jusqu'au bout et vous allez voir que j'ai vraiment pas d'a priori, à la limite, entre une pilule qu'on prend ou qu'on prend pas, ou qu'on arrête ou qu'on oublie, et des méthodes naturelles, on va se retrouver avec un risque de grossesse à peu près identique finalement. Donc une grossesse parfois non prévue, donc une IVG. Donc si vous voulez, moi je crois qu'il faut informer les femmes, parce que souvent elles ont des idées fausses sur leur cycle. Quand elles ovulent, si elles ont des cycles très irréguliers, c'est absolument infaisable ce type de méthode.
Marie évoluer.
À moins d'utiliser un préservatif de façon systématique. C'est-à-dire que là encore, les méthodes par préservatif impliquent, soit on a des cycles très réguliers, effectivement, on peut un peu programmer et mettre un préservatif à la période féconde, soit on a des cycles irréguliers, et quoi qu'il arrive, ça veut dire un préservatif systématique.
Aline Perraudin.
Ali, vous parliez de charge mentale pour la pilule, mais là, pour les méthodes naturelles, il y a aussi une charge mentale importante, parce que c'est une surveillance de soi de tous les jours et de tous les instants, je dirais.
Oui, on a le droit d'avoir envie de ça, mais on a le droit aussi de ne pas avoir envie de ça. Et en fait, quand elles sont prônées souvent, alors dans un cadre plus idéologique, ça veut dire qu'on n'a pas de rapport pendant la période fertile. Alors ça, là aussi, chacun a le droit de faire comme il veut, mais voilà, il y a des couples qui n'ont pas envie de se priver de rapports sexuels pendant au moins 10 voire un peu plus de jours.
Allez, continuez à poser toutes vos questions sur la gynécologie au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Il est temps de retrouver la chronique de notre médecin Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Mon cher Baptiste Beaulieu, en duplex de France Bleu à Toulouse.
Oui, Ali, je voulais vous parler d'Ada Lovelace. Née le 10 décembre 1815, elle fait partie de ces figures de femmes absolument géniales, mais totalement effacées par la société machiste. La romancière Catherine Dufour publie un ouvrage intitulé « Ada ou la beauté des nombres », dans lequel elle dresse le portrait de cette femme qui fut la pionnière de la science informatique. Tour à tour mathématicienne, programmeuse, poétesse, inventrice, traductrice, écrivaine, ingénieure, toute sa vie, Ada a dû lutter contre la prison dorée dans laquelle les corsets mentaux de l'époque voulaient l'enfermer en raison de son genre. Et dans cet ouvrage passionnant, Catherine Dufour écrit « Irréprochablement féminine le jour, Ada étudie la nuit, on lui confisque ses chandelles. Qu'importe, elle travaille son euclide de mémoire dans le noir. » Eh bien, devinez, que fait une société patriarcale quand une femme prétend s'émanciper, penser par elle-même et revendiquer son droit à l'autodétermination, quand elle commence en fait à faire un peu d'ombre aux hommes? Eh bien, on va pathologiser son intimité et la rendre responsable de son génie, de son désordre mental. Ada Lovelace a vécu l'enfer et tout a été fait par le corps médical pour anesthésier tous ses talents. Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur, écrivait Simone de Beauvoir. Eh bien, d'abord, Ada Lovelace a été bourrée d'opium, puis diagnostiquée hystérique. Les médecins pensaient littéralement qu'elle souffrit du syndrome de l'utérus sauteur. Son utérus sautait dans son abdomen, s'y déplaçait vers le haut, et cela expliquait son tempérament intrépide et rebelle. Le corps médical va faire souffrir 1000 tortures à Ada Lovelace, parmi lesquelles lui faire manger des crottes de lapin pour repousser le coupable utérus vers le bas de son corps et mettre de la confiture de pomme dans ses parties intimes pour attirer le dit utérus. Ce que je veux dire, c'est que l'intimité, qu'elle soit masculine ou féminine, n'est pas un terrain neutre, mais politique. La gynécologie, c'est politique. Rien n'est plus politique et donc extime que l'intime. Je veux dire, pendant des années, on a fait croire aux femmes qu'un phénomène aussi banal que les menstruations était capable de faire tourner une mayonnaise. Mais, par exemple, une gamine de 14 ans s'est suicidée la semaine dernière au Kenya après avoir été humiliée à l'école parce qu'elle avait taché son uniforme et elle a été insultée, traitée de sale par son professeur devant toute la classe et elle s'est donnée la mort en rentrant chez elle. Le corps des femmes, c'est un champ de bataille où se joue la guerre des sexes et le corps médical, on l'a vu ce week-end avec le rapport de l'Académie de médecine sur la procréation médicalement assistée, a longtemps été complice de cette domination masculine. Tour à tour contre l'interruption volontaire de grossesse, contre l'interruption médicale de grossesse, contre le préservatif, contre les traitements substitutif pour les toxicomanes, contre tout débat autour de l'euthanasie, beaucoup de représentants du corps médical ont une longue, longue, longue histoire réactionnaire derrière eux. Si seulement on pouvait être aussi en avant sur notre temps que le fut Ada Lovelace, quelle médecine pour tous ce serait.
Merci Baptiste Beaulieu. On peut évidemment podcaster votre chronique. Vous restez avec nous Baptiste, n'hésitez pas à réagir au cours de notre conversation. Allez, nous attendons toutes vos questions gynécologiques au 01 45 24 7000.
Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées au jardin de nos baisers. Dans ce fruit innocent brille tes dents comme un gourou qui harangue les âmes perdues, ma langue s'attendrit en chair de mangue. Passe la herse de craie de ton palais. Alors se ferme d'un coup sur l'organe de mon goût comme la mâchoire d'un loup. Dans la peau d'un agneau, ton massicot. Adieu, amour mielleux. Je mécanine, c'est un fleuve hémoglobine qui coule entre nos babines. On savoure ce breuvage anthropophage et de ce cocktail féreux déguerpit l'amour peureux, laissant s'étouffer le feu que l'on attise en vain jusqu'au matin. Adieu, amour mielleux.
Chéré, interprété L'amour saignant.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h42 et ce matin nous attendons vos questions gynécologiques avec la complicité de Santé Magazine au 01 45 24 7000. Avec nous deux gynécologues, les docteurs Daniel Assoun et Marie Velure. Marie Velure, vous vouliez apporter une précision.
Oui, je voudrais reparler un tout petit peu là du choix du contraceptif. Dans le choix d'un contraceptif, et ce c'est vrai là pour toutes les femmes qui peuvent nous écouter, on a tout un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est complètement individuel. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pour qui le plus important, c'est de ne pas avoir de boutons. D'autres, c'est d'avoir ses règles. D'autres, c'est surtout de ne pas avoir de règles. D'autres, c'est je ne veux surtout plus avoir mal quand j'ai mes règles. Bref, chacune a un cahier des charges. Il faut que toutes les femmes qui nous entendent soient claires sur leur cahier des charges et soient capables, quand elles vont voir leur médecin, de dire, voilà, moi le plus important dans la contraception que je prends parce que je ne veux pas d'enfant, c'est ça, ça, ça et ça. Et en France, on a la chance d'avoir un panel monumental de contraceptifs
remboursés,
qui sont en plus remboursés et qui permettent donc de toute façon de répondre le mieux possible à ce cahier des charges.
Janine nous demande jusqu'à quel âge et à quelle cadence doit-on faire un frottis et une mammographie. J'ai bientôt 70 ans. Daniel Assoun.
Ça sont des recommandations qui ont été établies sur des preuves scientifiques. Pour le frottis, il faut commencer à 25 ans et on arrête à 65 ans. Non pas parce qu'on méprise les femmes les plus âgées, mais simplement, on sait que si tous les frottis ont été normaux jusqu'à 64-65 ans, il n'y aura pas de cancer du col. Donc ça, c'est pour le frottis. En ce qui concerne la mammographie, sans facteur de risque particulier, la recommandation, c'est 50 ans et on s'arrête à 74 ans. Là, la raison de l'arrêt à 74 ans n'est pas la même que pour le frottis. Il y a des cancers du sein plus tardifs, mais on sait que si on les dépiste plus tôt, on n'est pas gagnant, disons, en termes d'espérance de vie. Ceci explique qu'on s'arrête.
Je veux juste redire un tout petit bémol sur le frottis. Les recommandations sont effectivement d'arrêter à 65 ans. On a maintenant des courbes qui montrent qu'on a de nouveau un petit pic de cancer du col de l'utérus entre 70 et 80 ans et qui sont dues en fait à la trajectoire sexuelle des femmes qui, à entre 40 et 50 ans, autour de 50 ans, refont vie ou ont de nouveau un certain nombre de partenaires. Et donc, il est très important par rapport au frottis d'avoir une idée de la trajectoire sexuelle parce que probablement que chez des femmes qui sont depuis moins de 20 ans avec un nouveau partenaire, on peut se poser la question, et pour l'instant les autorités tutelles ne sont pas encore toutes d'accord et les collèges non plus, sur le fait de pouvoir continuer les frottis après.
Bonjour Claire, bienvenue.
Bonjour.
Quelle est votre question Claire ?
Alors moi, j'avais une question plutôt concernant les règles et les protections préconisées pour les règles, puisqu'il y a des serviettes, il y a les tampons qui ont été beaucoup critiqués à un moment donné, il y a les cups qui sont assez méconnus, et je voulais savoir si les personnes autour de la table vers vous avaient une idée sur la question, genre elles en ont sûrement une, et si elles pouvaient nous faire la faire partager sur la sécurité des moyens utilisés et sur les différentes possibilités qui existent, parce que j'ai l'impression que la cup, c'est un peu méconnu.
Merci beaucoup Claire pour votre interrogation. Alors l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, confirme la présence de perturbateurs endocriniens et de substances sensibilisantes dans certaines protections à des concentrations très faibles, mais on le sait, en matière de perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est plutôt la présence. Bah si, c'est pas vous donnez Liné Marie-Veluire, mais une grande spécialiste de renommée mondiale comme Barbara Domenex nous a dit à cette antenne, et le dit dans ses livres, ce n'est pas la dose qui fait le poison en matière de perturbateurs endocriniens. Mais bon, répondons tout de même à la question de Claire, chère Marie-Veluire.
Je vais juste répondre sur la cup, là. Le Lancet vient.
C'est quoi exactement?
La cup, c'est une espèce de cupule qu'on met. Alors, il y a deux sortes de cups. Il y a les cups vaginales et les cups du col. En France, on a quasiment que les cups vaginales, c'est-à-dire c'est une espèce de petite coupe en plastique ou associée, enfin similaire, qu'on met dans le vagin et qui va recueillir le flux menstruel. Il y a une étude qui vient de sortir là dans le Lancet sur qui a fait toute une revue de la littérature et une méta-analyse sur toutes les différentes études qu'on a autour de la cup et de son efficacité et de sa sécurité, et qui montre qu'il n'y a pas plus de toxic shock syndrome et qu'il n'y a pas plus de problèmes de staphylococcus qu'avec les autres méthodes contraceptives, mais pas moins non plus. Même chose. Et que la plupart des femmes qui utilisent la cup disent qu'elles sont plutôt contentes, que ça nécessite un petit peu d'apprentissage. Et je redis là exactement comme pour les serviettes ou comme pour les tampons, s'il vous plaît, changez de façon régulière. Et la cup, par ailleurs, implique au niveau des contraintes, il faut la laver, il faut se laver les mains, donc suivant où on est, c'est pas obligatoirement facile, et il faut la stériliser à la fin du cycle.
Daniel Assoum.
Non, rien de plus. Effectivement, l'idée, c'est de les changer, c'est-à-dire de pas laisser une cup pendant 24 heures, 48 heures, comme ça arrive quelquefois. Ça arrive qu'on l'oublie, je pense. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant en consultation. C'est-à-dire des jeunes filles qui utilisent la coupe menstruelle ou moon cup, ça s'appelle aussi en anglais.
Sur les perturbateurs endocriniens présents dans certaines protections comme les tampons.
Alors effectivement, je l'ai lu, je ne sais trop quoi en dire. Franchement, j'ai pas de compétences particulières. Ça m'ennuie quand même qu'il y ait des perturbateurs endocriniens. Si on peut faire mieux, pourquoi pas,
hein. D'où le succès des cups.
On en a partout.
D'où le succès des cups. Certaines femmes se détournent des tampons par peur de ces perturbateurs endocriniens.
Moi, c'est pas ce que j'entends au cabinet. Moi, j'entends plutôt que c'est pour une histoire pratique, parce qu'elle trouve que c'est très pratique, et d'autre part, que c'est beaucoup moins cher.
Aline Perraudin.
On voit aussi des protections externes arriver, comme des culottes lavables. Et ça permet aussi peut-être d'amoindrir le risque de choc toxique, puisque c'est des protections externes, notamment la nuit. Et ça, on ne le voyait pas avant, c'est assez nouveau, en fait. Donc le choix s'élargit, et c'est bien.
Tiens, à propos de choc toxique.
Florence n'en revient toujours pas. Sa fille de 12 ans a été victime d'un choc toxique à cause de tampons hygiéniques qu'elle gardait parfois la nuit. Une bactérie est à l'origine d'une série de symptômes gravissimes.
En l'espace de 24 heures, en effet, elle a présenté, de par l'insuffisance hépatique, une coloration jaune de la peau, mais également sont rapidement apparues des plaques rouges partout sur le corps, une impossibilité à fermer ses doigts, à marcher également, une douleur au niveau des pieds et des mains. Et c'est vrai que nous, on la voyait s'aggraver d'heure en heure, et donc on a eu très peur.
Sa fille est hospitalisée pendant 10 jours à l'hôpital de Bordeaux et on lui administre deux types d'antibiotiques pour éradiquer la toxine à l'origine de son état. C'est le mauvais usage des tampons hygiéniques qui est en cause.
Extrait de cet au programme sur France 2017, Marie Veluire. conseil de base.
Ben, le conseil de base, c'est vrai pour la cup, c'est vrai pour le tampon. Alors, c'est encore plus vrai pour le tampon que pour la cup. Mais franchement, il faut changer régulièrement. Sur un tampon, on ne garde pas plus de 6 heures. Et si on peut éviter d'en mettre la nuit, c'est pas plus mal. Parce que la nuit, ça peut durer longtemps.
Une auditrice nous demande, Anne nous demande, à quel âge doit-on parler de l'apparition des règles à notre fille, Daniel Assoun ou Marie Veluire?
Moi, je dis le plus tôt possible. Là encore, c'est exactement la même chose. De à quel moment on va parler de la sexualité? Je crois que c'est quelque chose qui démarre assez tôt. Il y a des très jolis petits livres bien faits avec chaque âge et les règles en font partie. Ce qui est clair, c'est que c'est pas à 12-13 ans ou à 11 ans, au moment où ça va arriver, qu'il faut en parler. C'est mieux si elles sont un peu au courant avant. C'est aussi un passage. C'est quand même il y a quelque chose de moins en moins ritualisé. Et moi, je crois qu'au contraire, ça devrait être un petit peu ritualisé. Une fois qu'on a ces règles, on rentre dans le monde des femmes et ça a une certaine importance.
L'âge moyen des règles chez les jeunes filles, c'est 12 ans et quelques mois. Donc effectivement, je pense que c'est comme un travail ou une éducation qui est progressive aussi. On va pas un jour la prendre comme ça entre quatre yeux et lui dire voilà ce qui va se passer. Pour toi, son corps se transforme 2 ans avant. Les règles, c'est la fin de la puberté, au sens où une fois qu'elles ont leurs règles, elles vont plus vraiment grandir, elles ont déjà des seins, des poils, etc. Donc c'est la fin, donc ça commence 2 ans et demi avant. Donc il y a tout un travail de discussion, petit à petit, progressif, qui est indispensable. Je suis assez d'accord sur le côté ritualisé. Ça, on perd une certaine forme de rituel. Il y a des rituels qui sont absolument épouvantables, qui consistent par exemple à donner une gifle à une jeune fille qui a ses règles. Je l'ai vécu personnellement. Donc
ça me rappelle une scène de Diabolomante, dans Diabolomante, dans le film de Diane Curis.
Absolument. Je sais, voilà, j'y suis très sensible parce que c'était pas une gifle douloureuse, mais c'était quand même une entrée en matière qui était un peu brutal.
Oui, et puis il y a des rituels d'autres que moi.
Mais il y a d'autres rituels qui
entendus
sont,
dans
je
le
pense,
cabinet, comme l'annonce au repas dominical au milieu de toute la famille. Je suis pas sûre non plus que ce soit l'idéal. Voilà. Mais on peut ritualiser autrement.
Latia nous dit, et quelques mails et messages vont dans ce sens-là, j'ai comme l'impression qu'on minimise un peu ce matin les effets secondaires de la pilule. Oui, j'ai pris du poids, oui, je me sentais déprimée, oui, j'ai commencé à faire des cystites à répétition, et non, je ne suis pas un cas isolé, je me porte beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté la pilule. Daniel Assoun.
Je pense effectivement, comme disait Marie tout à l'heure, c'est totalement individuel. Dès qu'on sent qu'il y a des effets secondaires, il faut l'entendre, voilà, c'est ça. Dans une consultation, c'est pas parce que ça semble scientifiquement pas tout à fait validé ou que tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Si quelqu'un vous dit que ça ne va pas, il faut changer de contraception. Il faut absolument discuter, chercher autre chose. Parce que pour elle, c'est vrai ce qu'elle vit. Et ce n'est pas agréable.
01 45 24 7000. Le standard est ouvert sur toutes vos questions gynécologiques.
When you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling. Never ask me how I like my eggs in the morning. Never ask me taking comfort in my shadow, but you seem to stay afloat 'cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, 'cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why, I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, Layla wants to creep in through my window. Now I've got you back in my arm. Now I'm moving from the shadow. A hit from your talking. When the hurricane comes, I'm on back roads. When the hurricane comes, you do not know. Oh, I feel the clouds of change when I'm riding in my spaceship, calling out your rain, cause it's no one's time to soak it. You left me hopeless, swimming in your ocean, got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why? I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why?
Joey Crooks interprétait Hurts.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et à 10h55, nous attendons encore toutes vos questions sur la gynécologie, autour de la pilule, des règles ou encore de la ménopause. On a une question de Laetitia. Bonjour, j'ai 47 ans, je suis en préménopause depuis un an. Est-ce normal d'être extrêmement fatiguée, d'avoir tout le temps chaud? Ma gynéco ne m'a rien expliqué. Docteur Daniel Assoun, docteur Marie Veluire.
Je sais pas si c'est normal, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut avoir bien compris que la période de préménopause,
c'est quoi exactement ?
Eh ben, c'est pas une période qui est définie. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, entre 5 et 10 ans avant d'être ménopausée, la ménopause arrive en moyenne plutôt à 51-52 ans actuellement, on a des ovaires qui dysfonctionnent un peu et qui sécrètent un peu moins de progestérone que d'estrogène. Du coup, on se retrouve en déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui va entraîner des symptômes comme d'avoir mal au sein, comme d'avoir des cycles qui s'irrégularisent, qui peuvent se raccourcir, qui peuvent se rallonger, et comme de pouvoir avoir des bouffées de chaleur. Alors c'est très individu dépendant. La préménopause, ça veut pas dire grand chose, ça veut juste dire que c'est une période de transition où tout est irrégulier. Et donc les symptômes qui sont décrits là peuvent aller avec, la fatigue aussi, et encore que... Après, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, c'est pas toujours très simple, et il faut savoir, là encore, il y a un cahier des charges des femmes, il faut qu'on les écoute et qu'on essaye d'y répondre au mieux.
Et nous allons consacrer une émission à la préménopause et à la ménopause, que énormément de questions sur ce sujet-là, et vous reviendrez évidemment. Une dernière question d'André. Bienvenue André, dans Grand Mère
oui,
vous fasse.
Bonjour à toutes et à tous. Ben écoutez, moi je suis une vieille bonne femme, j'ai 80 ans.
Mais non.
Et j'ai des amis qui me disent, mais tu es ridicule, complètement ridicule, d'aller voir le gynéco, ta vie gynécologique est dans ton dos, ma pauvre vieille. C'est fini cette histoire. Alors, depuis 10 ans, elles n'y vont plus. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison?
À vous entendre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout ridicule, ma chère André. Docteur Daniel Assoun.
Mais non.
C'est réjouissant.
Vous êtes pas ridicule. La prévention, c'est à tous les âges que ça existe, même si on n'a, dans la majorité des cas, plus nécessité de faire des frottis ou voir des mammographies. L'examen clinique, c'est quand même non négligeable pour dépister parfois des pathologies de l'ovaire ou des pathologies du sein encore. Donc non, ce n'est pas ridicule. Et puis on peut avoir envie aussi, même à 80 ans, de discuter sexualité quand même.
Ou d'avoir une idée de comment fonctionne son vagin et qu'il soit examiné et qu'on puisse vous aider à avoir un vagin et une vulve plus confortable, par exemple.
Bon, vous reviendrez, docteur Daniel Assoun, Marie Veluire, pour parler de la préménopause et de la ménopause. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aline Perraudin. Le tout nouveau numéro de Santé Magazine avec un dossier gynécologique est disponible en kiosque. Demain, une question. Êtes-vous hypocrite? Dans quel cas ce type de mensonge est-il salutaire ou délétère? Nous recevrons Olivier Babot qui publie un éloge de l'hypocrisie et puis l'écrivain Charles Danzig. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur l'hypocrisie au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Florent Bujon et Florent Layani.